Précédemment, dans Red Universe.
Un petit ami? Toi?
Bien sûr, moi!
Elle donna des à-coups, tenta de se libérer de la poigne d'acier qui la maîtrisait en brûlant jusqu'à son dernier souffle. Mais il avait enfin la certitude qu'il lui manquait. Calandroré, la fille de sel étendue sur le lit, traitait le contre-amiral Pophéus et s'en était même éprise.
Angilbe, je t'aime.
Ne me laisse pas.
Je vais mourir.
Angilbe approcha son visage de celui de Calandre et, délicatement, lui déposa un baiser sur ses douces lèvres.
Tu sais sûrement qu'un nouvel attentat des mutualistes a eu lieu hier. C'était dans une ville tropicalienne. Je fais partie de la cellule de soutien aux victimes et mon avion décolle ce soir.
L'association Peau de Chose présente Red Universe. La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre spécial Pod Nuit 2017. L'autre agapé.
Épisode 5. Marumba, centre de crise, section d'assistance psychologique des victimes.
Bonjour, je m'appelle Calandroré. Je suis psychologue et je viens parler avec vous si vous le désirez. Tout d'abord, comment vous sentez-vous?
Mon bras? Avez-vous vu mon bras? Je tenais mon enfant et elle n'est plus là. Je suis Jacqueline et ma fille c'est Nadine. Elle est avec mon bras, vous croyez?
Bonjour madame, je m'appelle Bangaré et je suis vivant. Je ne comprends pas comment, mais je suis vivant. Peut-on se remettre d'une chose pareille? Oui, vous êtes sûr? Jacques, c'est mon petit ami, il va être fou de joie. Et moi aussi.
Mon bébé va bien d'après les médecins. Je ne pense qu'à ça. Mon nom, c'est Paklina Abeke. J'ai un enfant de 3 ans et je suis enceinte de 5 mois. Alors je n'ai pas le choix, je suis debout et je résisterai. Évidemment, je n'ai pas le luxe de pouvoir sombrer. Mon mari nous a quittés il y a longtemps. C'est lui qui aurait dû se prendre cette bombe. Pas moi. Pas nous. Quel salaud. Lui, eux, tous.
Je ne sais pas ce que je fais ici. Je vais très bien, vous savez. Aucun problème. Je suis fort, vous savez. Dans ma famille, on résiste à tout, alors. Même si c'est grave, je suis en pleine capacité de mes moyens. Mon nom est Amebe Kohana, vous savez.
Pouvez-vous me raconter ce que vous avez vécu?
Madame Jacqueline M.
Nadine est une folle de concert. Elle collectionne les billets. Et ce soir, on devait rejoindre des amis à un foyer de l'autre côté de la ville. Je pensais qu'elle aimerait regarder et entendre la musique. Et tout ça, en chemin. Alors, je n'aurais pas dû choisir cette avenue.
Monsieur Bangaré T.
J'ai proposé à Jacques d'aller se promener, mais il ne l'a pas voulu. Il m'a dit « il pleut ». J'ai répondu « mais ce n'est pas le tonnerre qu'on entend, c'est la musique. Viens !» Finalement, il n'a pas voulu sortir. Je suis parti seul. Je voudrais l'appeler. Vous croyez qu'il peut venir me rejoindre ici? Merci beaucoup. J'étais juste arrivé à côté d'un foyer que je connaissais bien quand... Je ne suis pas sûr de la suite. Jacques ne répond pas. Il dort peut-être.
Madame Paklina A.
À 19h, je pestais devant la porte H. Mes amis étaient en retard et même si la nourrice était à la maison, je ne voulais pas rentrer tard. J'ai pu les joindre au communicateur et nous nous sommes donné rendez-vous à quelques mètres de... Ils sont tous morts. J'ai ressenti le souffle de l'explosion. Mais j'étais loin. Merci pour le verre d'eau. Mon pauvre bébé. J'espère que tu n'auras rien.
Monsieur Amébé K.
Je jouais dans un foyer musical, vous savez. On venait de donner notre premier tour, et de jolies filles nous suivaient de l'autre côté de l'entrée. Elles regardaient par la fenêtre, les pauvres. Avec le copain, depuis le podium, on leur faisait des signes pour qu'elles approchent et... Enfin bref, elles ont été balayées, et tout s'est effondré sur nous. Vous voyez ce que je veux dire. Les vitres, les murs, les baffles, les morceaux de mes copains.
Quel fut votre premier souvenir d'après l'explosion ?
Madame Jacqueline M.
Arrivée sur l'avenue, on a subitement entendu un bruit énorme qui m'a rendue sourde. Il y a eu un souffle et je me suis retrouvée à plusieurs mètres de là, les jambes et un bras en sang. J'ai appelé Nadine, j'ai hurlé de toutes mes forces sans pouvoir m'entendre moi-même. J'ai eu de la chance d'être dans les premières personnes secourues. Ils m'ont posé ce dispositif pour stopper l'hémorragie. Ils m'ont dit que s'ils retrouvaient mon bras, ils pourraient... Mais Nadine, elle était au bout de ce bras. Elle reviendra, n'est-ce pas ?
Monsieur Bangarété.
J'avais les mains brûlées, la tête aussi et les trous dans les jambes. J'ai hurlé pour que Jacques me rejoigne, pour qu'il m'aide. Je ne vous dis pas les baffes qu'on m'a mises pour me réveiller. Je n'avais aucune idée d'où j'étais. C'était comme dans un cauchemar. Je hurlais de douleur. Cette jambe était noire de haut en bas. Une personne n'arrêtait pas de me parler pour me tenir éveillé. Entre la douleur et la peur, j'ai cru mourir une seconde fois. Je peux encore appeler mon ami, s'il vous plaît. Merci. Bizarre pourtant, il devrait répondre, vu le bruit des ambulances et les nouvelles à la télévision.
Madame Paquelina A.
Il y avait énormément de confusion, même les services de sécurité étaient en état de choc. J'ai commencé à voir des gens pleurer et crier. J'ai vu beaucoup de sang sur le sol, beaucoup de gens blessés. Aux jambes ou à la tête, recouvertes de poussière. Ça me rappelait les images des attentats autour de Matterhorn Centrum. J'avais des pincements au ventre. J'étais affolée à l'idée de perdre mon bébé. Une infirmière s'est avancée vers moi. J'ai cru voir un ange. Elle m'a conduite dans une tente et elle a fait venir un médecin qui a vérifié que tout allait bien. Et je suis rentrée chez moi. En fait, je ne m'en souviens plus, mais c'est la nourrice qui a compris. Elle a appelé les secours et ils m'ont emmenée ici. Voilà.
Monsieur Amébé K.
Des policiers me parlent au-dessus de moi. Ils me disent de respirer très fort. Que les lieux vont être sécurisés pour autoriser l'arrivée des services de secours. J'attends donc. Le pied d'un ami est à côté de moi. Le pied tout seul, je veux dire. Vous savez, je peux le reconnaître parce que c'est une basket qu'on lui avait offerte pour son enterrement de vie de garçon. C'était il y a 2 ans. Je passe une demi-heure, une heure, je ne sais pas, à regarder cette chaussure. Je la détaille. Je peux voir les traces d'usure. Le dessous de la semelle, vous savez. On voit qu'il a dû marcher un peu trop en appuyant sur le côté. Il devrait la faire et... Enfin... Vous savez quoi.
Si je vous demandais de fermer les yeux maintenant et de vous détendre, laissez les souvenirs naviguer librement dans votre esprit. Que voyez-vous ?
Madame Jacqueline M.
Nadine.
Monsieur Bangarété.
Jacques qui me pousse, mais que, comment est-ce possible? Il n'était pas avec moi. Il ne pouvait pas être là.
Madame Paquelina A.
Le corps d'une petite fille ensanglantée. Elle n'était pas loin de moi quand je me suis réveillée. Je vois encore son visage surpris. Une partie de ses cheveux brûlés. Et ce sang. Tout ce sang. J'ai pensé à la mienne. Oh mon Dieu!
Monsieur Amébé K.
Rien de particulier. Je suis solide, je vous l'ai déjà dit. Quelques images, sans plus. Non, n'insistez pas. Je veux dire, rien de spécial, vraiment. Juste une chaussure.
Rapport d'introduction de l'expertise post-traumatique. Docteur Calandre Auré, psychologue psychanalyste, diplômé de l'Université 6 de Materwan Centrum. Madame Jacqueline M. La patiente nie la perte de son bras et celle de sa fille Nadine. L'attelle biotechnique branchée à son épaule lui permet de penser qu'on lui fera revivre son enfant, comme on pourra le faire de son bras si on le retrouve. Information prise. Nadine M. est décédée rapidement. On n'a toujours pas retrouvé le bras de la patiente. Monsieur Bangarét T. Le patient s'est construit un scénario dans lequel son conjoint Jacques aurait refusé de l'accompagner. Mais la présence de celui-ci lors de l'explosion est avérée, et il est décédé en protégeant Monsieur Bangarét de son corps. Les gifles que celui-ci a reçues pour son éveil et les paroles pour le maintenir éveillé étaient le fait de Jacques, qui puisait dans ses dernières forces. Monsieur Bangarét nécessite un suivi quotidien ainsi qu'une sensibilisation du tissu familial et social autour de sa personne. Madame Paquelina A, la patiente, une parente isolée, a perdu une partie de son équilibre familial, ce qui nécessitera sans doute une aide pour surmonter les troubles post-traumatiques. Cependant, en tant que mère et femme enceinte, elle semble pouvoir faire face. La présence d'une nourrice et, à confirmer, un rapprochement avec sa propre famille devrait lui apporter un soutien déterminant. Monsieur Amébeka. Le patient s'autodissimule une psychose liée au traumatisme de la mort de ses amis. L'épisode de la chaussure en fut sans doute l'événement déclencheur. Il raconte également tous ses souvenirs au présent. C'est un symptôme courant des traumatisés. Il nie totalement être sous l'effet d'un quelconque stress et montre un début d'attitude de rejet si on lui renouvelle la question. Je recommande un suivi hebdomadaire ainsi qu'une veille familiale du patient pour les prochains mois.
Rapport de contre-expertise de la docteure Calandre Auré suite aux entretiens lors de l'attentat de Marumba. Alors la praticienne a montré lors de notre entretien une très grande maîtrise et un grand professionnalisme. Elle a reconnu avoir été marquée par l'atrocité des témoignages qu'elle a recueillis, ce qui est normal, voire plutôt rassurant quant à son équilibre psychique. On notera une petite peluche au bras arraché qu'un de ses patients lui a offert. Elle appartenait à une enfant, d'après ce qu'on lui a dit, décédée dans la zone de l'explosion. Elle m'a déclaré vouloir la mettre sous verre dans son cabinet pour mémoire. Nous avons convenu d'un second entretien dans un mois, concernant une possible résurgence d'un stress indirect ou l'apparition d'un fétichisme autour de la petite poupée. Dans un premier temps, elle m'a prévenu qu'elle prévoyait quelques jours de repos dans la résidence de son partenaire. Elle conservera donc la peluche dans sa valise durant cette période. Docteur Roland Carré, psychologue, psychanalyste diplômé de la faculté médicale d'ETB 01.
Alors, comment était-ce là-bas? Apportez-nous un peu plus de thé au jasmin, merci.
Pophéus poursuivait sa redécouverte des plaisirs de l'amour avec Calandre. La jeune femme était rentrée durant la nuit, et tous deux s'étaient immédiatement jetés sous les draps, pour des retrouvailles plus intimes. L'odeur de sa compagne, quelle qu'elle fût, lui semblait un nectar. Ses mots, quels qu'ils fussent, s'entendaient tels des poèmes. Sa présence lui injectait une vitalité nouvelle que son absence lui arrachait. À un moment, tôt dans la matinée naissante, il s'était tourné vers elle et, un peu somnolent, l'avait appelée Méala. Heureusement, la jeune femme dormait profondément, elle n'avait rien entendu. Cela en disait long sur les sentiments que le contre-amiral éprouvait.
Mon chéri, je ne voudrais pas gâcher notre petit déjeuner océanique. Tu te doutes combien c'était horrible. Et toi? Il m'a semblé qu'on tournait la poignée de la porte, peu avant mon réveil. Et tu n'es revenu à mes côtés que de longues minutes plus tard. Qui avait-il?
On dirait que je passais en revue les préparatifs du petit déjeuner, la fraîcheur des crustacés, la cuisson des poissons. Je te conseille la fricassée d'algues fourmis, une spécialité reconnue du chef.
J'y vais donc de suite. Et en réalité, ta sortie de ce matin était secrète, n'est-ce pas ?
Totalement.
Elle avait ajouté cette question. Plutôt une remarque, en fait, en se servant une belle cuillerée d'algues roulées en boule, avec un peu de mayonnaise au centre. Quelle femme, quelle intelligence ! Pophéus n'en revenait toujours pas. Et comme toujours, elle avait raison. Le rapport qu'il avait reçu du responsable de l'opération en cours l'inquiétait suffisamment pour qu'il réponde en personne. Rien ne prouvait que les mutualistes attaqueraient directement le palais du Conseil de la Révolution. Mais il fallait prendre toutes les précautions. Les renforts étaient en route, l'alerte avait été donnée et des fouilles ordonnées. Il ne restait qu'à attendre.
As-tu prévu quelque chose de précis pour aujourd'hui ?
La question le ramena à la réalité. Il n'avait pas encore touché à sa crème de crevettes tube, et la psychologue le lui signalait astucieusement.
Oui et non. Je dois toujours être joignable dans le cadre de mes fonctions, tu t'en doutes. Et aucun rendez-vous prévu ne peut être déplacé. Mais ta présence m'est très chère.
Alors nous pourrions aller nous balader dans la forêt du domaine royal au sud de la capitale, non ? Un panier avec quelques provisions, une bouteille d'eau, et nous pourrions passer une journée mémorable.
L'idée me plaît, mais il faudra se sacrifier à un impératif.
Ajouta Angilbe, d'un air mystérieux. N'était-il pas en train de faire un trait d'humour ? Il s'opérait en lui une nouvelle magie autrement plus efficace que la chasse aux mignons. La jeune femme grimaça et leva un sourcil, interrogative.
Oui ?
Nous devrons vider la forêt de tous ses visiteurs et l'avoir pour nous tout seul. J'espère que cela ne te dérange pas.
Oh ! Laisse-moi y réfléchir. Bon, allez, exceptionnellement, j'accepte de profiter d'un des plus beaux parcs forestiers de la région, uniquement en ta compagnie.
Ils rirent tous deux de bon cœur et les choses étant, Pophéus se tartina une généreuse épaisseur de crème. Il allait croquer dedans lorsque...
Quelle est cette fumée au loin ? Un accident sur la déviation ?
Où donc ? Mais dans cette direction, la rocade est déjà terminée. En fait, c'est proche du palais.
Le contre-amiral se releva brusquement. Lâchant sa tartine à l'instant précis où un agent mental se précipitait à ses côtés, lui tendant un message visiblement prioritaire. Il le parcourut et ne put dissimuler une frustration, un moment de colère dans le regard. Ils avaient osé aller jusque-là, et ses services avaient échoué à les arrêter.
Calandre, mon amour, j'ai peur que nous ne devions remettre à plus tard cette escapade en solitaire. C'est une urgence. Prends tout le temps que tu veux. La demeure est à toi.
Que se passe-t-il ?
Regarde les informations. Ce sera difficile de cacher cela.
Et il l'embrassa, tendrement. Mais Alar réapparut brièvement devant ses yeux, mais ses traits se troublèrent, adoptant ceux de Calandre Auré, psychologue et partenaire dans cette nouvelle vie. Un moment d'hésitation, leurs mains étaient presque agrippées. Puis elle hocha doucement la tête, en signe d'encouragement.
« Donne-moi des nouvelles de temps en temps. »
Pophéus l'en assura, l'embrassant à nouveau et s'élançant à la poursuite de son agent. Deux étages plus bas, dans le bunker soutenant la demeure, plusieurs gardes se précipitèrent, lui hurlant de se dépêcher par de grands gestes. Quelque chose de nouveau ? Il accéléra le pas, mais déjà on le poussait, le forçant à courir. Un son étrange, le frottement d'un appareil qui rentrait dans l'atmosphère, résonna à l'intérieur du corridor. À une vitesse supersonique, la navette de transport du lithium immatriculée A7G3C, en provenance directe de la station spatiale numéro 1 Maman Lolo, avec une pleine cargaison, vint percuter la résidence du ministre de la Sécurité, le contre-amiral Pophéus. La déflagration souffla le bâtiment, projetant les véhicules et le bâtiment à plusieurs centaines de mètres. Elle creusa dans le sol rocailleux un cratère géant, Les flammes carbonisèrent le parc et les débris déchiquetèrent de nombreux agents dissimulés aux alentours. La navette spatiale venait d'être déclarée volée 23 minutes auparavant. Les opérateurs radars qui suivaient sa trajectoire n'avaient pu déterminer sa destination qu'aux derniers instants. L'appareil ne respectait aucune limitation de vitesse ou d'inclinaison pour l'approche. Et il avait fallu se rendre à l'évidence. Le pilote ne cherchait pas à atterrir, mais à s'écraser. C'est durant l'ultime minute qu'une transmission radio fut ouverte. Juste quelques mots. Une dizaine de corps gisaient alignés, empaquetés dans des sacs mortuaires. L'aspirante mentale Fakir vérifia une nouvelle fois l'identité de chaque cadavre avec sa liste, énumérant consciencieusement les numéros d'identification et les comparant un à un. Les blessés les plus graves étaient déjà partis en orthoptère, et d'après les dernières informations, ils s'en sortiraient presque tous. Il s'agissait surtout des tireurs et des gardes répartis dans la forêt. Ils avaient été soufflés avec elle. La petite femme resta quelques secondes pensive devant l'alignement morbide. Ses cheveux bruns mi-longs ondulaient doucement dans la brise venue du sud. Mais assez rêvé, on l'avait entraînée à ce genre de situation, et c'était l'heure du rapport des fouilles. Sur le chemin de la grande tente blanche où l'on donnait les premiers soins, elle activa son communicateur. À une centaine de mètres de là, les excavatrices poursuivaient avec précaution leur travail dans le cratère, creusant et dégageant les gravats à la recherche des dernières personnes manquantes. On entendait les chiens des secouristes aboyer de temps en temps, noyés dans la poussière de béton omniprésente. Parmi les absents, le plus important était évidemment dans tous les esprits, le contre-amiral Pophéus.
Ici Fakir, des nouvelles ?
Rien de neuf, mais nos senseurs sont bloqués par la dalle sous la résidence. Seul détail certain, nouveau corps apparaît en moitié en radiométrie. Ça lui est tombé dessus, on sera sur lui dans... Oui ? Laissez ? Bon, je viens. Excusez-moi, on me signale une sorte de faille dans le béton. Je vais voir.
Parfait. Tenez-moi au courant.
L'aspirante entrait sous la tente improvisée, se préparant à mettre à jour une seconde liste lorsque son communicateur vibra à nouveau.
Fakir ?
Madame, venez vite ! C'est incroyable ! On a un survivant ! Il répond au coup sur les barres de soutien. On met tout le monde dessus !
J'arrive.
Elle n'osait y croire. Dans la résidence, personne n'avait survécu. C'était le centre de l'impact. Le lithium s'y était enflammé à des températures de plusieurs centaines de milliers de degrés, fondant la pierre. Un survivant, là-dedans. Elle enjamba plusieurs blocs moulés expulsés de leur sculpture et descendit dans le cratère en direction des excavatrices. Presque tous les ouvriers s'étaient regroupés derrière une des machines, et celle-ci levait lentement son puissant bras mécanique pour soulever une portion de dalle. Fakir manqua de glisser par deux fois, puis arriva enfin à la hauteur du chef de chantier. On la laissa passer et elle put contempler la scène. Au milieu des chiens qui aboyaient, on extirpait dessous les décombres un des gardes, la tête broyée, mais le corps intact. Elle soupira.
Une fausse alerte.
Non, madame. Les coups viennent de derrière lui. Regardez la dalle, elle est à moitié fondue. 1,50 m de béton armé. Sous l'impact, deux pans entiers se sont superposés. Ce garde était une cinquantaine de centimètres trop en avant. Il a reçu la partie avant qui... Écoutez.
Dong. Dong. Des coups résonnèrent le long d'un morceau de canalisation. À quelques mètres, un ouvrier répondit avec une grosse pierre sur le métal. Le chef de chantier motiva ses troupes. L'heure n'était pas à la contemplation.
Allez-y. Doucement. Tout doucement. Là, un bras qui bouge. Il est couvert de poussière, mais il remue.
C'est une main âgée. Il n'y avait pas beaucoup de gens âgés parmi ceux qui étaient présents lors de l'attentat.
Nota l'aspirante, emplie d'un nouvel espoir. On tira lentement la personne. Rien ne semblait la retenir.
Tout doucement.
Se pourrait-il qu'aucun membre n'ait été meurtri ? s'inspira une immense bouffée d'oxygène quand on le sortit enfin entièrement de son abri de fortune. On le fit s'asseoir et deux médecins l'examinèrent sommairement, vérifiant ses réflexes musculaires, l'intégrité de son squelette, sa tension. L'aspirante Fakir apporta un verre d'eau, tandis qu'on mettait une couverture sur les épaules du ministre. Il ne présentait que quelques blessures superficielles, mais un bilan complémentaire allait suivre sous l'abri. On l'installa avec précaution sur une civière, portée par deux infirmiers bien bâtis. Fakir n'eut pas besoin de sa formation de mental pour noter le respect visible des secouristes pour cet homme revenu de l'enfer. Ils étaient impressionnés, et elle-même ressentait une certaine fierté de travailler sous les ordres de cet indéfectible survivant. Sur le chemin, elle put recueillir le premier mot que son chef prononça.
Calandre.
Amiral, ne forcez pas, il faut vous reposer.
Calandre.
Je pourrais vous présenter un bilan sommaire quand vous serez...
Wattel.
Le sac hermétique numéro 12 avait été scellé comme beaucoup d'autres, durant la première heure. On tenait la civière du contre-amiral pour qu'il puisse être assis, face à celle qu'il aimait. L'aspirante rongeait son frein. Deux orthoptères étaient déjà en route pour récupérer le ministre. Compte tenu de la situation, le fait qu'il ait survécu prenait une tournure capitale pour toute l'humanité. Chaque minute comptait.
Ouvrez le sac.
Mais amiral...
Ouvrez-le.
Elle fit signe à un des préposés qui glissa la lame d'un cutter sur le pourtour supérieur du sac, puis il saisit l'un des bords et le souleva suffisamment pour qu'Opophéus en voie bien le contenu. Tête vers les arbres arrachés, au loin. Aucun des corps retrouvés dans la résidence n'était entier. En fait, souvent, on avait découvert que quelques morceaux, des tissus brûlés et mêlés au reste des vêtements, des os calcinés. Et cela valait peut-être mieux pour eux. Plus le corps était détruit, plus la mort avait été rapide. Et le cadavre de la femme dans le sac numéro 12 ne faisait pas exception. Elle entendit alors derrière elle quelque chose d'inattendu, une réaction déplacée, malsaine. Le contre-amiral riait à gorge déployée, luttant contre une quinte de toux qui lui enrayait la voix. Tous l'observaient, ne sachant quelle attitude adopter. Fakir perçut une pointe de démence, derrière ce rire qui montait vers les aigus, entre chaque crachat expulsé par ses poumons. Elle fit signe de refermer le sac et d'éloigner la civière sans demander l'avis de Pophéus. Il se trouvait en état de choc, c'était une évidence. Elle n'aurait jamais dû céder à sa requête. La vue du corps meurtri de la femme qu'il aimait l'avait profondément touché. Calandre laissait son regard se promener sur la vue offerte, au-delà de la grande baie vitrée de son cabinet. Il faisait beau sur Materwan Centrum. C'était un après-midi radieux, de ceux qu'on apprécie pour les promenades à bicyclette ou en famille. Derrière elle, ne se trouvaient pas les habituels divans et chaises de travail, ni même les bibelots destinés à détendre les patients.
Les murs étaient couverts de photos d'elle à tous les âges et à toutes les périodes de sa vie. Ici, un bébé se baignait pour la première fois en éclaboussant sa mère, Camélia. Là, c'était la découverte de l'océan dans les bras de son père, encore jeune soldat. Elle ne put retenir un sourire devant la large image d'elle, lovée contre son premier amoureux. Elle n'avait alors que 17 ans et pensait avoir compris les secrets de l'existence et de l'amour. Et bien sûr, la fameuse photo de famille autour de la jeune psychologue diplômée. Certains souvenirs moins agréables peuplaient aussi les carrés de vie étalés sur les murs de la pièce. On trouvait, pêle-mêle, la cérémonie d'enterrement de son père, l'accident de voiture qui avait emporté son petit ami, le patient dangereux qui s'était jeté sur elle. Et là, sur cette photo, la vieille dame qu'elle avait accompagnée jusqu'à la mort, un moment bouleversant dans la vie de Calande. Et pour conclure, la dernière, sa mort dans l'attentat mutualiste de la résidence du contre-amiral Pophéus. Sur son bureau se trouvait un simple dossier fermé et un téléphone, qui sonna alors qu'elle le regardait. Elle s'en saisit naturellement et la voix de sa mère monta du combiné.
Calande, tu es enfin à ton cabinet? On t'attend, ton père et moi. Nous arriverons d'ici quelques minutes pour te prendre, d'accord? Ne bouge pas de là.
Bien sûr, maman. Ah, et ne vous trompez pas de sonnette, c'est celle du bas, d'accord? À tout de suite.
Elle raccrocha et s'intéressa à ce fameux dossier qui l'appelait, trônant au milieu de son espace de travail. C'était un album photo, mais pas le sien. Le papier était jauni, passé. On y découvrait un bébé dans les bras d'un homme que Calande avait déjà vu, mais où? Le roi Magnum IV? Les pages suivantes présentaient un jeune adolescent, bien bâti, en train de peindre, de barbouiller en fait, les murs en bois d'une grange. Il n'était pas seul, une fille l'accompagnait. On lisait l'espièglerie dans les yeux du garçon et l'amour dans ceux de l'adolescente enjouée. L'image d'une fourche jetée au sol, auréolée de traces de sang, puis de grands vaisseaux amarrés à leurs ports spatiaux, des centaines d'officiers en tenue clinquante parfaitement alignés pour une revue d'équipage. Puis une prise de vue officielle, où, engoncé dans son bel uniforme, le visage d'Angilbe avait changé. C'était désormais celui d'un homme dur, ayant fait abstraction de ses émotions. Des scènes de sexe peuplaient plusieurs des pages suivantes, dans toutes sortes de lieux, avec toutes sortes d'hommes, puis d'enfants. Calande restait impassible, détaché. Un gaillard blond, grand et mince aux yeux dorés, apparut soudain sur une série de photos. Qui était-il donc? Le papier devenait de plus en plus friable, et une tache noire centrale s'agrandissait page après page, comme une moisissure qui prendrait possession des derniers feuillets de l'album. Le communicateur de l'entrée retentit. Sa mère avait enfin réussi à ne pas se tromper de sonnette, c'était inédit. Calande ouvrit la porte de l'immeuble et se replongea dans le livre. Les feuilles s'émiettaient, la tache noire emportait tout, brûlant jusqu'aux photos. Calande s'arrêta devant une image d'elle et d'Angilbe, déjeunant d'un menu océanique à base de crevettes tubes et d'une délicieuse fricassée d'algues fourmis. Les deux héros de la prise de vue semblaient heureux, insouciants dans ce moment de calme, ignorant l'apocalypse qui allait se déchaîner peu après. On frappa à la porte et la voix de sa mère parvint à ses oreilles.
Calande, je suis avec papa. Dépêchons-nous, nous ne voulons pas rater le transport. On a prévu un long voyage. Je suis très impatiente et ton père aussi.
La jeune psychologue répondit brièvement, retira de l'album la photo du petit déjeuner et la glissa dans son sac à main. Elle ne put s'empêcher de caresser la couverture du livre refermé devant elle. De tout ce que contenait cette pièce, c'était peut-être ce qui allait lui manquer le plus.
Adieu, toi.
Mais arrête le sentimentalisme!
Rugit, pressée, la voix de Camélia derrière la porte du cabinet.
Tu vas le revoir bientôt, ne t'inquiète pas.
Calande Auré s'éloigna du bureau et de l'album qui se détériorait à vue d'œil. Elle éteignit la lumière du soleil et ferma la porte derrière elle en sortant.
Bonjour, c'est Raoulito. Alors j'espère que vous avez apprécié ce spécial intitulé L'autre Agapé. Donc c'était pour la Pod Nuit 2017, pour l'association Prod Chose qui produit d'ailleurs ce spécial. J'espère que Vous n'êtes pas trop triste, hein. Je sais que le destin réservé à cette pauvre Calandre, d'ailleurs, et à sa famille n'est pas des plus réjouissants. Mais on peut pas vraiment dire non plus que l'histoire de Red Universe est elle-même des plus réjouissantes. Alors, allons faire les crédits. Je vais essayer d'être rapide, sans trop déflorer, parce qu'il y a beaucoup de monde. J'étais au scénario, bien sûr. À la relecture, on avait JMJ et Quam. Les acteurs, vous aviez Anna, la narration, qui a... Vous noterez pratiquement accompli toute la narration. Comme on avait affaire à un ensemble de morceaux recompilés un peu des fois, hein, on n'a pas refait tout, donc ça s'entend. Et c'est intéressant de noter que donc ça fait, en fait, vous avez là des morceaux qui sont sur au moins 3 ou 4 années, quoi, qui ont été recompilés et réarrangés ensemble. Donc Anna, durant ces 3 années ou 4 années, a fait la narration. Une fois c'était moi, mais c'était un pur hasard. Coupi, ensuite, a été la fameuse Calandre Ray. Pof Magic Finger a été l'incontournable Pophéus. Istria a joué Camélia, la maman de Calandre, dans un rôle étonnamment attendri. Étonnamment, je vais me faire tuer. Destrocorn est Monsieur R, bien sûr. Hein, il est venu, il a tué quelqu'un parce que c'est Monsieur R. Les rescapés des attentats, il y avait Jacqueline M, qui était jouée par Eliosa. Paculina A, qui était jouée par Ania Christen, Bangarete, jouée par Tristan, et Amebeka, jouée par Akira Matsuda. Je voudrais d'ailleurs les remercier tout particulièrement parce qu'ils ont su mettre une émotion et une force, une intensité dans les témoignages. Bon, c'était beau, franchement. Bien entendu, nous avions Eloan dans le rôle de l'aspirante Fakir, Quam dans celui du chef de chantier. Et la première apparition dans quelque chose qui compte un peu dans ce monde, c'est Roland Carré dans son propre rôle. Ce chapitre spécial lui est d'ailleurs dédicacé. Pour réaliser le montage de tout ça, nous avions pas mal de monde. Alors, la partie la plus importante étant les parties inédites, hein, les nouveaux montages, c'était Super Hakim. Super Hakim, parce que super, comme Superman, il y a Man, Hakim, Superman, Super Hakim, tout ça. Bon, j'enchaîne. Montage des entretiens, c'était Blam. Il a récupéré tous les morceaux les uns après les autres et en a fait un gros bien. Les montages originaux de ces fameux entretiens a été réalisé par Richoult et moi-même. Et le montage du générique et le mix final, c'est moi-même, Raoulito. Nous avions évidemment de nombreuses musiques et morceaux musicaux pour nous accompagner, dont une bonne partie viennent de Jamendo et certains sont de chez nous, de notre playlist Red Universe. Alors le générique était fait avec The Line, en instrumental, de Alexei Pogorelov. Le thème de Calandre de Rory Amoureuse, c'est Nomade, de The Mind Orchestra, album Devoured by the Comfort Soul. Le thème de Calandre Heureuse, Infinity, de Marco Magna, l'album c'est World Colors. Le thème des entretiens, alors, évidemment Salam, de Lauren Danis, l'album Salam. Donc tous ces morceaux-là, vous les trouvez sur jamendo.com, ils sont en accès libre, ne vous gênez pas. Et nous avons utilisé aussi deux autres thèmes, le thème ancien du contre-amiral Pophéus, qui s'appelle The Ancient, de Stellesian Aeon Project, l'album Aeon 2, lui aussi en Jamendo gratuit, hein, j'oubliais. Mais le thème fou du contre-amiral Pophéus, lui par contre, c'est un thème original de notre playlist que vous pouvez trouver sur le site de Red Universe. Eh bien, j'espère que ça vous a beaucoup plu, hein, depuis hier à aujourd'hui. Et je vous dis bonne continuation pour la suite. Red Universe ne s'arrête évidemment pas. Nous allons d'abord terminer le chapitre 23 avec l'Empereur Dieu. Et ensuite, nous attaquerons le chapitre 24 où le nombre de péripéties politico-religieuso-science-fictionnesques est à son comble. Je ne dirai pas plus. Alors aussi, nous allons avoir en septembre la sortie du livre chapitre 11, Dynastie, avec Ralato qui repart dans sa famille du passé, ainsi que ce fameux chapitre-là que vous venez d'entendre, qui sera entièrement cette fois compilé en un grand fichier. Alors c'est le moment de récupérer le bouquin, le chapitre, tout ça, ce sera début septembre. Bonne fin de dimanche, et puis à bientôt, au revoir.